RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Avec Yoann Durand, Maître Yodu, Dr Love, c'est son nouveau surnom il paraît.
Salut Yodu. Je fais tout, je coach de vie, coach d'amour, coach d'athlète. Bon, toutes les casquettes.
Margot Siraki, elle t'a tué avec ce surnom. Là, ça va te...
Heureusement que peu de personnes écoutent ce podcast et que ça reste entre nous trois, tu vois.
Alors, et du coup, je lance un appel à toute la communauté RMC Running. Si vous croisez Yoann Durand, vous l'appelez Dr Love désormais, s'il vous plaît. Merci.
Arrête, Coach Yodu, ça avait bien pris. Ah, et là, on va partir sur autre chose.
Et voilà. D'ailleurs, on remercie tous ceux qui nous suivent pour le soutien et la fidélité.
Y a du monde.
Si c'est pas déjà fait, vous laissez une note ou un commentaire sur les plateformes de téléchargement. Et puis, des nouvelles importantes concernant le record du monde. La phase de recrutement a démarré, ça y est, on y est, et j'ai une date à vous donner, vous commencez à nous la réclamer sur les réseaux sociaux. L'annonce officielle de la liste des coureurs sélectionnés sera publiée le lundi 22 avril. Vous saurez si vous êtes retenu pour cette tentative de record du monde au Stade Charletti le week-end du 8-9 juin. Je vous explique tout en fin d'épisode. On a un nouvel épisode hors série aujourd'hui, Yoann, en collaboration avec la Clinique du Coureur. On va parler du tendon d'Achille, ton sujet de prédilection, mon vieux. Ça te connaît.
Ah ouais. Là, tu veux me replonger dans mes douleurs.
Ah, tu en as souffert un long moment durant ta carrière. Et des douleurs bien connues d'ailleurs par de nombreux coureurs. Comment prévenir, soigner et se débarrasser d'une tendinite d'Achille? On a convoqué un spécialiste pour en parler. Il va arriver, Florent Allier, kinésithérapeute, conférencier et spécialiste du sujet. Le Bon Plan Matos, une marque qu'on aime bien, qu'on connaît bien, une marque girondine s'il vous plaît. Sensus à l'honneur, la marque française éco-responsable. On va vous faire découvrir un t-shirt en ricin. Théo Lapouge, le fondateur, sera avec moi. Alors détachez vos lacets, retirez les chaussures, on prend soin des tendons aujourd'hui.
Tu as mal au tendon d'Achille ?
Tendon d'Achille, le club. Vous faites peut-être partie de ce club-là.
Les coureurs à pied, les joggeurs, les runners sont concernés parce que c'est une perte de l'élasticité.
Faire attention éventuellement à avoir plutôt une attaque médio-pied. Ce qu'on sait, c'est que cette tendinite d'Achille, elle touche principalement les sportifs, ceux qui font de la course à pied.
Ne pas confondre avec la référence mythologique du talon d'Achille. Là, c'est le tendon d'Achille qui relie le talon au muscle du mollet de ce tendon-là qui va s'enflammer. Et cette inflammation, comme son nom l'indique, ça donne une tendinite.
Le tendon d'Achille est le tendon le plus résistant du corps humain, capable de supporter des charges mécaniques assez énormes.
On autorise un petit peu de douleur lorsqu'on a une tendinite d'Achille pendant le traitement et la rééducation, mais cette douleur doit être inférieure ou égale à 3 sur 10. Également, pour les premiers jours, on conseille de éventuellement utiliser la glace comme antidouleur naturelle.
L'arrêt des neiges pour la glace. Belle inspiration, Geoffrey Charpey, félicitations. Il est là avec nous, notre kiné conférencier de la clinique du coureur, Florent Allier. Salut Florent.
Salut.
Sois le bienvenu en direct de Grenoble au pied des montagnes.
Eh ben, merci de m'accueillir dans cette émission-là. J'ai entendu plein de mots super, super intéressants, là.
Ouais. T'as aimé la Reine des Neiges ?
J'ai aimé la Reine des Neiges. Ouais, okay. On va parler de glace et de tendinopathie. Ouais, très intéressant. Ah, ouais. Biomécanique de course aussi, là, la tendance médio-pied, inflammation. J'ai plein de choses à vous dire intéressantes.
Tout. Excellent.
Il y a tout.
Florent, je présente ton profil. Au départ, tu es entraîneur de judo, tu l'as été pendant 7 ans. Tu es un passionné de sport, de course à pied, de trail notamment. Mais surtout, tu es spécialiste des problèmes liés au tendon d'Achille. C'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui.
Oui, c'est effectivement, là, je me suis orienté un petit peu plus par rapport à ma pratique kiné sur les blessures du coureur. Et bien entendu, les coureurs s'exposent aux blessures de surutilisation qui sont les tendinopathies. Et effectivement, chez le coureur, on retrouve classiquement la tendinopathie d'Achille qui est bien connue de l'ensemble des coureurs.
Donc on l'a dit, vous le savez, mais le tendon d'Achille, c'est le tendon qui relie les muscles du mollet à l'os du talon. Les douleurs au tendon d'Achille, c'est l'une des pathologies les plus fréquentes en course à pied. Yoann, tu connais bien le sujet, on a commencé à en parler, mais ça t'a pourri la vie pendant des années, hein.
Oh furet, là j'ai des frissons rien que d'en parler, là ça me replonge 10 ans en arrière.
Oh, putain, on te voit te toucher le mollet là, on te voit.
Ah ouais, hein. Là ça y est, je retouche mon tendon. Non, ça a été je m'étais jamais blessé jusqu'à l'âge de 27 ans et à partir du moment où j'ai commencé à souffrir de ce tendon d'Achille, ça a un peu déréglé la mécanique et effectivement, j'ai galéré pendant jusqu'à me faire opérer hein, pendant 5 ans avec, avec cette, cette douleur-là qui passait. Hein, par moments, j'arrivais à bien m'entraîner, puis des fois, ça revenait. Comme toutes les tendinites, elles s'en vont, elles reviennent. Ça fait un peu du va-et-vient suivant pas mal de choses que vous changez dans votre entraînement ou dans votre mode de vie des fois. Et cette inflammation-là ne m'a pas quitté jusqu'à 2019.
Ouais, donc c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Pourquoi ça touche particulièrement les runners ? C'est vraiment une blessure de coureur, ça, Florent.
Parce que tout simplement que, en fait, la course à pied, ça nécessite de la propulsion. Donc, qui dit propulsion dit travail de votre mollet, plus exactement du triceps. Et ce triceps, il vient s'accrocher sur le calcaneum, donc l'os du talon là. Mmh. Et donc, il subit des contraintes qui sont importantes. Rappelons-le que c'est bien son job, hein, c'est le tendon qui est le plus costaud du corps. Il est fait pour ça. Mais vu qu'on l'expose à des sollicitations qui peuvent être plus ou moins importantes, bah effectivement, c'est en course à pied qu'on va le plus souvent déclencher ce type de pathologie, de blessure.
Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est une tendinite d'Achille alors ? Et quelles sont les différentes formes ? Parce qu'il y en a plusieurs.
Ouais, ce qui est important déjà, c'est le mot tendinite n'est peut-être pas très adapté. Okay. On parle plutôt de tendinopathie, en fait d'une souffrance du tendon. Mm-hmm. Le mot it, tendinite, veut dire forcément inflammation et ce n'est pas forcément ce qu'on va retrouver systématiquement dans une souffrance du tendon. C'est un peu décrié, mais on ne retrouve pas classiquement une inflammation comme on l'aurait sur une blessure musculaire ou sur une blessure traumatique comme une entorse de cheville. Donc, on parle plus de tendinopathie que de tendinite. Et après, au niveau du tendon d'Achille, c'est important effectivement de préciser parce que classiquement, on a la tendinopathie du corps du tendon hein, qui est juste au-dessus de son accroche, à 2-7 cm au-dessus du calcaneum. Mais on peut avoir aussi d'autres souffrances de ce tendon, entre autres bah, ce que Johan, lui, a eu, c'est une souffrance de l'insertion, donc vraiment plus basse au niveau de l'os. Donc là, on est sur une tendinopathie plutôt insertionnelle, une enthésopathie. Puis après, faire attention avec des diagnostics différentiels de structures qui sont voisines de ce tendon et qui peuvent aussi déclencher des douleurs et qui nous font penser aussi à une tendinopathie. Donc c'est là, ça. Aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur la tendinopathie corporeale, voire insertionnelle, comme Johan a pu avoir.
Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu as eu, toi, Johan, pour donner un exemple concret ? Comment sont apparues les douleurs ? Qu'est-ce que c'était comme type de douleur ? Et quand est-ce que tu as su que c'était le tendon d'Achille qui te faisait souffrir ?
Alors moi, ça a démarré, pour tout vous dire, ça a démarré en 2009, quand j'ai signé mon contrat à l'armée avec le bataillon de Joinville. Ils ont eu la bonne idée de vouloir me faire faire un 8 km avec des rangers au pied. Donc j'ai fait 8 km course avec des rangers au pied.
Quelle bonne idée.
C'était pour me mettre dans le bain. Ils se sont dit, vas-y, ouais, t'es coureur, mais vas-y, montre-nous ce que tu fais avec des rangers. Donc effectivement, je l'ai fait. Mais à partir de ce jour-là, la rangers, elle m'a commencé à me frotter sur l'os. Et tu vois, juste à courir avec 8 km et j'ai dû la porter, la chaussure, je sais pas, une fois ou deux fois dans l'année, tu vois, je la portais jamais, à part quand on défilait, donc une à deux fois par an, tu vois. Et ben, quand je la mettais, ça me faisait super mal. Si tu veux, j'avais une contrainte liée à mon, ça c'est mon anatomie, c'est-à-dire que j'ai mon calcaneum qui ressort un petit peu. Et ces chaussures de militaires, là, les Rangers, ont fait que ça a commencé à frotter. Et à partir de là, en une sortie, je me suis enflammé cette partie-là. Et cette inflammation, elle ne m'a quasiment plus jamais quitté jusqu'à l'opération. Alors après, ça, c'est le début. Ça a commencé comme ça. Puis pendant 6 mois, plus de douleur. Puis quand je remettais les pointes, que j'avais le mollet un peu chargé, ça revenait. On était vraiment à l'époque sur des chaussures, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2010, quand on courait, c'était ultra minimaliste.
Oui,
les pointes, elles étaient hyper fines. Les chaussures avec lesquelles on faisait nos entraînements, on voulait du dynamisme et de la légèreté. On n'était pas sur les super mousses d'aujourd'hui. Donc effectivement, tu avais toujours, la chaîne postérieure, toujours ultra chargée, que ça soit des mollets, des quadris et tout. Tu étais tout le temps en tension. Et effectivement, ça tractait sur mon tendon. Et à partir de, je dirais, 2013, là, la tendinite s'est vraiment installée de manière assez récurrente. Après une saison en salle, je m'en rappelle très bien, mettre mon pied entier après un meeting en Belgique. Je sors dehors, je vois la neige et je mets mon tendon dans la neige, mais parce qu'il était en feu et j'en pouvais plus, tu vois. Là, je me suis dit, bon, bah là, ça y est, c'est la galère. Et effectivement, des fois, ça m'a plus quitté jusqu'à 2018. Ouais.
Comment reconnaître cette douleur alors, Florent ?
Alors, Johan, là, il a décrit vraiment une tendinopathie bien particulière. Hein. C'est faire attention parce que ce n'est pas ce qu'on va retrouver le plus classiquement.
Oui. Peu de gens courent 8 km avec des Rangers, ça, c'est sûr.
C'est ça. Donc, parce que Johan, il est habitué à courir. Hein. Là, le changement, il a été sur le chaussage. Et c'est bien effectivement la chaussure. Alors, mauvaise chaussure, pas forcément. C'est que tu n'étais pas habitué à courir avec ces chaussures-là. Et d'un coup, tu t'es retrouvé à devoir courir 8 km avec des chaussures avec lesquelles tu n'étais pas habitué. Donc, en fait, tu as eu une surutilisation, surcharge de tissu, du tissu local, là, qui a fait que tu as déclenché ça. Parce que quand je t'entends parler effectivement des pointes et tout, oui, effectivement, c'est des chaussures qui sont minimalistes, qui font bien travailler le pied, mais encore une fois, si on le fait de manière progressive, ça pose aucun problème. Au contraire, hein, tu vas avoir des tendons d'Achille et des pieds beaucoup plus costauds que ceux qui vont peut-être les surprotéger. N'oublions pas qu'une tendinopathie, c'est une blessure de surutilisation. C'est un moment, tu lui en as trop demandé, ou tu as abaissé ta capacité. Je sais pas, tu as été cloué au lit pendant une semaine, et puis d'un coup, tu te remets à courir comme si tu t'étais jamais arrêté. Et là, tu lui en demandes trop par rapport à ta capacité du moment. Donc, c'est toujours ce déséquilibre dans la balance. Soit je lui en demande trop d'un coup, soit je suis pas assez prêt aujourd'hui à supporter une sollicitation habituelle. Toi, ton changement, Johan, c'était là vraiment le chaussage. Mais classiquement, sur les tendinopathies qui concernent plutôt le corps du tendon, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est souvent une surutilisation, une erreur d'entraînement. J'en ai trop demandé à mon tendon.
Et pour ceux qui nous écoutent, ce sont les principales causes. Alors, c'est augmenter trop violemment le volume ou l'intensité.
Exactement. C'est vraiment ce qu'il faut aller chercher. Là, Johan, il a évoqué un facteur extrinsèque qui était la chaussure. Mais classiquement, allez, on va dire 8 chances sur 10 que votre blessure, que votre tendon est en souffrance à cause d'une erreur d'entraînement. Soit vous avez fait trop de volume, ou classiquement, c'est une pathologie, on appelle ça une pathologie de charge, donc directement reliée à la vitesse. Mmh. Et donc très souvent, ces tendinopathies d'Achille, elles se déclenchent quand on va faire un travail spécifique de vitesse. Alors ça peut être Johan quand il va faire ses entraînements de marathon avec entre autres les phases de travail d'intensité. Ça peut être aussi l'ultra trailer qui va faire de l'endurance et qui va aussi se faire des entraînements spécifiques où justement il va faire, on en parlait tout à l'heure, du fractionné. Et là il va devoir propulser plus fort, plus vite son corps et donc solliciter plus son mollet et donc son tendon d'Achille.
Ça veut dire que, donc on connaît les causes, où se situe la douleur concrètement ? Pour ceux qui nous écoutent, ça arrive d'avoir des douleurs au mollet, on ne sait jamais vraiment où est-ce qu'on a mal, est-ce que c'est en haut, est-ce que c'est en bas ? Comment savoir qu'il s'agit du tendon d'Achille ? Évidemment, il faut consulter un spécialiste, mais lorsqu'on s'alerte après une sortie, qu'on commence à avoir une douleur, comment être bien indiqué, se dire « ah oui, c'est vraiment cet endroit-là qui me fait mal ».
Alors, c'est un tendon, en fait, qui est très superficiel. Donc, normalement, la personne qui souffre du tendon, elle va pouvoir toucher la zone. Elle va pincer son tendon. Souvent, c'est le réflexe. On vient palper son tendon. Mmh. Et là, on déclenche la douleur sur la palpation de notre tendon de manière assez précise. Le coureur, il a mal vraiment de manière très localisée sur le tendon. Sachant que Johan, lui, sa douleur était plus basse au niveau de l'insertion sur l'os. Mais c'est très localisé au niveau du tendon ou de son insertion.
Johan, toi, au niveau de la douleur, donc c'est monté crescendo depuis ce jour-là. Et, ouais. Est-ce que tu peux nous la décrire ? Est-ce qu'immédiatement, tu avais mal même au repos ou c'est en forçant à l'entraînement que la douleur s'est accrue ?
Non, bah, c'est lié... ce qui est difficile, c'est que c'était pas forcément pendant la course. Hein, c'est plutôt à froid. Mmh. C'est une douleur, on le dit, c'est inflammatoire. Et effectivement, c'est plus des douleurs au repos et dans les premières Tu sais, ce fameux dérouillage du pied quand tu te réveilles, là, il me fallait, ouais. Il me fallait 3 minutes avant de marcher correctement. Et pareil, une fois que je partais en jog, eh ben, 3-4 minutes pour déverrouiller un peu. Et puis d'un seul coup, pouf, et puis plus de douleur, et puis ça partait. Et puis ça,
comme pour chauffer,
ça,
quoi. Chauffer
ouais, voilà, ça chauffait. Quoi. Ça, c'était les, premières, les premiers signes. Et puis effectivement, et progressivement, bah, la douleur, au lieu de partir au bout de 3 minutes, elle part au bout de 5 minutes, puis 10 minutes, puis un quart d'heure, puis 20 minutes, puis au bout d'un moment, elle part plus. Et ouais. Elle te suit quotidiennement, même dans ton quotidien, dès que je marchais à la fin. Ouais.
Alors, c'est intéressant, juste attention à la petite notion d'inflammatoire. Mm-hmm. Parlons plutôt d'une douleur tendineuse, parce que je l'ai précisé tout à l'heure, est-ce qu'il y avait vraiment une inflammation? Surtout, ce qui est intéressant, ce que tu disais, Johan, c'est que effectivement c'est une douleur qui peut disparaître quand on est chaud entre guillemets. Ça peut être au début on le sent un petit peu, les patients vont dire je sens un peu une raideur au niveau de mon tendon, encore plus décrit le matin hein, sur les premiers pas, cette sensation effectivement de devoir un peu déverrouiller ce tendon là pour l'allonger et sentir après effectivement que ça passe, que c'est plus fluide au niveau de sa mobilisation. Mais c'est ça le piège, et c'est vraiment ce que tu as décrit, Johan, c'est qu'au début, quand on commence à souffrir de ce tendon, ça ne nous empêche pas de continuer à courir.
Et est-ce qu'il faut le
faire,
alors ?
Tout le piège.
Est-ce qu'il faut le faire, continuer à courir ?
C'est justement ça qui est intéressant, c'est que quand on est... Il faut bien savoir faire la différence entre le moment où notre tendon est en phase aiguë, donc hyper allumé, et sur ce que tu as dû aussi vivre, Johan, avec des hauts et des bas. Et là, on parle d'un tendon plutôt persistant. Quand on est en aiguë, que le tendon vienne nous faire mal pour la première fois, la première chose à faire qui est hyper important, c'est de se calmer. On le met au repos, sauf qu'on est incapable de le faire, et moi le premier, parce qu'encore une fois, ce tendon ne nous empêchera pas de continuer. Donc on va continuer, comme dit Johan, au début, ça ne te gêne pas trop, ça ne t'empêche pas de finir, tu auras mal un petit peu après éventuellement, et puis petit à petit, cette douleur va s'installer de plus en plus quand tu vas courir, la raideur du matin va être de plus en plus importante, et malheureusement, on va aller consulter quand on est vraiment limité dans sa pratique parce que ça nous emmerde et qu'on ne peut plus suivre notre programme d'entraînement, qu'on ne peut plus faire nos entraînements spécifiques. Et là, on consulte. Mais là, malheureusement, on est déjà allé trop loin, qu'il aurait fallu peut-être juste se calmer. Ça ne veut pas dire ne rien faire. Hein. Ça veut dire arrêter toute sollicitation qui vient l'irriter, donc la course à pied, et basculer vers une activité de transfert éventuellement comme... du vélo, vélo, natation, des activités plus de décharge,
le
tendon
ouais.
serait mis au repos. Exactement. Ouais. Mais ce que tu dis, c'est super important. Un coureur, ce qu'il a envie, c'est de courir. Quand tu lui dis, il va falloir te calmer, et non, c'est pas possible. Surtout qu'il a sa préparation, il a son marathon qui est dans un mois. Et donc, malheureusement, c'est ça le problème principal, c'est qu'on n'arrive pas à se calmer au moment où il faudrait le faire.
Est-ce qu'on peut parler de l'importance des étirements? Parce que quand on fait de la course à pied et qu'on fait du long, du semi, voire du marathon, on n'a pas toujours le réflexe de s'étirer lorsque la douleur apparaît. Est-ce que l'étirement peut permettre de diminuer la douleur et de faire disparaître ces sentiments douloureux, justement?
Ben, l'étirement aujourd'hui ne fait pas... Je parle bien de l'étirement passif, hein, on est bien d'accord. Aujourd'hui ne fait pas partie des recommandations sur le traitement de référence pour traiter une tendinopathie. Maintenant, ce que tu dis, est-ce que ça peut me faire du bien sur le moment? Oui, pour certains, le matin par exemple, ils vont s'étirer un petit peu au lever. Et ils vont faciliter les premiers pas, sentir leur tendon effectivement un petit peu moins raide. Mais aujourd'hui, à part moduler un petit peu ces symptômes, l'étirement pur passif n'est vraiment pas recommandé pour la tendinopathie. Et dans le cas de Johan, encore moins. Pour quelle raison? Parce que Johan, c'est une tendinopathie d'insertion. Alors là, les gens vont peut-être pas comprendre, mais en fait, en étirant, vous allez majorer sa compression du tendon contre l'os. Donc pour Johan, j'aurais même tendance à lui dire, surtout ne t'étire
pas. Ne t'étire pas, mon gars. Ouais, c'est ça.
Surtout ne t'étire pas. Ouais. Moi, j'avais un œuf de poule au niveau du calcaneur.
Exactement. Mais alors, Johan, c'est intéressant. Ton œuf de poule, là, je suis OK avec toi. Il y avait effectivement un phénomène inflammatoire à ce niveau-là. Certainement aussi une bursite associée, très certainement. Et là, on parle effectivement d'inflammation. Mais l'étirement, je pense qu'au niveau du triceps sural, honnêtement, hein, qui est tendinopathie ou pas, aujourd'hui, ça n'apporte pas une plus-value d'aller étirer un muscle. Au contraire, où on lui demanderait plutôt d'avoir une bonne capacité de raideur. Ça veut dire un bon ressort qui emmagasine et qui restitue bien de l'énergie. Donc, étirer mon triceps, moi, je le ferais pas forcément pour un coureur.
On a toujours ces images spectaculaires, c'est arrivé à plusieurs footballeurs, de cette rupture du tendon d'Achille, qui pourtant est le tendon le plus solide du corps humain. Oui. Je le disais, donc c'est une blessure fréquente sur... tu réponds à moitié à ma question, mais c'est une blessure chez un footballeur. Est-ce que ça touche le runner ? Sur Stipe, ça arrive, alors, Yoli, t'as déjà vu ça, ouais.
Ah, moi, j'en connais un paquet, ouais.
Alors,
sur la rivière.
Oui, ça peut arriver, comme tu dis, sur la rivière, parce que là, tu vas avoir justement une contrainte qui va être maximale à ce niveau-là, effectivement, quand tu passes la haie. Maintenant, pensez aussi que donc on peut se faire une rupture du tendon sur des tendons qui sont complètement asymptomatiques, hein, où on n'en a jamais souffert. Ouais. Et on peut le retrouver même chez le sédentaire, hein, de 50 ans, qui va faire un petit effort de propulsion et bing, un claque. Coup de poignard derrière et il se le rupture. Ouais. Donc, c'est des choses qui arrivent. Mais attention, même chose, quelqu'un qui a souffert de son tendon, et d'ailleurs c'est des signes que je vais rajouter, hein, on disait d'une douleur très localisée, on peut avoir plus ou moins du gonflement. C'est un gonflement lié à de l'œdème, mais ça peut être un gonflement à plus long terme parce que le tendon, au bout d'un moment, il va aussi chercher à se renforcer, puis il va se remanier, puis il va s'épaissir aussi. Donc on peut avoir un tendon plus épais. Et là, des fois, les patients, ils ont peur justement de le rupturer. Mais il faut vraiment les rassurer par rapport à ça. Il y en a qui se le rupturent et qui n'ont eu aucun signe annonciateur.
Voilà.
Et en plus, parce qu'on va y venir dessus, en gros, le traitement
dire,
de référence...
C'est pas parce que vous avez mal qu'il va rompre, en fait, c'est ça?
Alors, pas forcément. Y a quand même... faut y faire attention, mais non, clairement, il faut rassurer nos patients avec ça. Par contre, il faut qu'ils se calment. Hein. S'il a mal, c'est qu'à un moment, il faut peut-être se calmer quand même.
Johan, pourquoi t'es allé jusqu'à l'opération alors? Parce que ça devenait insupportable?
Non, disons que les premières choses que j'ai fait, c'est aller voir un kiné. Donc j'ai fait le classique, hein, savoir beaucoup de renforcement, un peu d'onde de choc, les étirements, les ultrasons, le glaçage, les choses comme ça, pour vraiment essayer de, dans un premier temps, de le passer comme ça avec du renfo et de la kiné. J'ai fait faire des semelles pour être un petit peu surélevé. Ça, c'était l'étape suivante. Le port un petit peu de talonnette pour mettre en décharge un peu le mollet et être un peu plus surélevé. Et puis voilà, non, progressivement, quand la douleur s'installe, tu commences à mettre des choses en place. J'essayais de mettre les pointes le moins souvent possible. J'évitais les chaussures parce que moi, ça vient vraiment du port des chaussures qui me gênait. Donc, à un moment donné, les chaussures, elles avaient toutes des coques à l'arrière. Elles étaient toutes ultra rembourrées, ultra renforcées au niveau du talon. Et là, ça me compressait, ça m'appuyait vraiment sur la zone. Donc, je faisais des trous au cutter ou des fois, j'ai percé des chaussures au chignol, là, tu vois, les trucs pour faire des petits ronds, là, pour traverser les murs. J'ai percé des chaussures, des coques de chaussures comme ça.
Il achète des nouvelles chaussures et il la perce à la perceuse.
Je la perçais à la perceuse pour que ça ne m'appuie plus sur la zone où j'avais mal, pour courir.
C'est la preuve de l'impact de cette douleur sur le mental, parce que ça te rendait fou, en fait. C'est fou. T'es pas surpris, Florence, j'imagine.
Non, c'est des super bonnes stratégies. Hein. Tu vois, j'étais en train de noter, justement, sur des patients comme toi, tu vois, j'en ai eu un ce matin. Il est arrivé avec ses chaussures, je le suis depuis un certain temps, hein, et ses chaussures, il a mis un coup de ciseau en fait verticalement dans la tige de la chaussure, hein, c'était moi qui lui avais conseillé, qui fait que en fait nos chaussures modernes, là, bien technologiques, elles ont une coupole calcanène assez rigide, et cette belle technologie, c'est un problème dans le cas de Johan, parce qu'elle vient agresser justement l'insertion, et donc là, la solution qui fonctionne très bien, c'est effectivement soit de faire une emporte-pièce, soit de venir couper cette partie-là. Vous inquiétez pas, la chaussure va pas se désagréger. Peut-être pas le faire avec la dernière chaussure qu'on a achetée, qui est toute belle, toute neuve. Mais effectivement, c'est des bonnes stratégies. Mais Johan, c'est super intéressant ce que tu as dit, parce que j'ai entendu plein de choses. Et je pense qu'il faut vraiment faire la différence de la phase aiguë versus toi. T'étais loin.
Moi, j'étais en fin de course. Hein. Moi, c'était vraiment... je tentais le tout pour le tout. Hein.
Ouais, c'est génial. Mais c'est vraiment ça, ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Il y a plein de choses vraiment à mettre en place de manière très rigoureuse avant d'arriver à ce cas qui est très très rare, qui est de passer par une chirurgie. Vraiment, c'est très 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 rare et c'est pas la référence qu'on va avoir effectivement sur type de prise en charge. Et je vais peut-être les reprendre un petit peu quand même. Ouais. Tu vois, t'as dit glaçage et semelle. Alors, c'est des modalités effectivement qu'on va utiliser pour les symptômes. Le glaçage, moi je vais pas perdre trop de temps là-dessus. Le glaçage aujourd'hui, ça ne fait pas partie des recommandations. Oui, le glaçage va te soulager de la douleur parce que c'est un très bon antalgique. Mais moi j'aurais tendance à dire un truc très simple, c'est que si tu as besoin de glacer, ça veut dire que tu as mal. Donc, si tu as mal, ça veut dire que tu es allé trop loin. Ouais. Donc, tu as mal dosé. Il faut être, faut être très objectif là-dessus. Donc, je ne veux pas que tu glaces. Parce que je ne veux pas que tu ailles jusqu'à la douleur au point que tu aurais besoin d'avoir des modalités comme le glaçage ou, on n'a pas parlé de médicaments, hein, mais de prise de médicaments et d'anti-inflammatoires, effectivement, Florent, dans ce sens-là.
Oui. Comment je me soigne si j'ai mal alors ?
Alors, dans le cas de Johan, la semelle avec plus la partie arrière de la semelle qui nous intéresse, c'est effectivement la talonnette. Va permettre de venir soulager effectivement la contrainte de tension compression au niveau du tendon sur son insertion. Mais attention, parce que justement, ton talon, Johan, il a été surélevé dans la chaussure.
C'est ça.
Et ça vient un peu plus l'agresser plus. Avec l'arrière de la chaussure.
Ouais. Il se revoit, le gars.
C'est un bon, Johan.
Il revit tous ses cauchemars.
Ah, je suis passé partout. Donc, vous allez dire, je l'ai fait.
Ouais. Alors, le petit conseil par rapport à ça.
C'est de courir en babouche, non ?
Non, idéalement, ça serait de mettre une talonnette sous la chaussure. Si on était. Ça serait plutôt une chaussure à fort drop.
Drop, ouais.
Ah oui.
D'accord ? Qui fait que c'est tout le talon qui est surélevé et pas que le talon dans la chaussure. Voilà, le talon et la chaussure qui est surélevé. Donc, effectivement, un plus fort drop. Attention, c'est une intervention à court terme. Oui. C'est juste pour soulager dans la phase aiguë. Donc, talonnette, chaussure à fort drop, ça peut aider pour calmer la douleur. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à courir avec ça. C'est des modalités pour mettre au repos. Donc, c'est pour calmer. Voilà.
Mais
donc,
question bête, parce qu'un coureur comme Johan, de haut niveau, a souvent une attaque médio-pied, donc il attaque l'avant du pied. Ça a une incidence sur ta foulée, comme ça, quand tu rehausses le talon, Johan ? Ça avait une incidence ?
Non, pas forcément. Mais après, par contre, tu crées des adaptations. Moi, j'ai pas eu trop de boiterie, mais j'ai vu des athlètes qui avaient justement les mêmes symptômes que moi. Parce qu'aujourd'hui, c'est moins fréquent dans les athlètes de haut niveau. Mais moi, à mon époque, dans les années 2010, c'était, franchement, je pourrais t'en citer une bonne dizaine d'athlètes qui ont fini par plus ou moins se faire opérer ou pas, mais qui avaient ces problématiques de tendinite d'Achille. Et ça crée une boiterie parce que du coup, la jambe, admettons, tu as mal au tendon d'Achille à droite, tu esquives le pas. Et du coup, tu mets plus de contraintes sur ta jambe gauche. Et là, tu crées des équilibres monstrueux. Tu te retrouves avec des douleurs ailleurs parce que tu veux courir en ayant mal.
J'ai vu dans les causes et les symptômes, souvent, il y a les gens qui ont une jambe plus courte que l'autre. Ça arrive. Hein. Ça dépend aussi de tes genoux. Si tu as les jambes en X aussi, ça peut te causer des problèmes au niveau du tendon d'Achille. Et l'hygiène dentaire aussi. J'ai vu ça. Je ne sais pas si c'est vrai, Florent. Mais
est-ce que tu veux vraiment qu'on perde du temps à parler de ça ou on parle de choses sérieuses?
C'est toi le kiné.
Ok, je sais qu'il y en a, ils vont pas m'aimer comme ça, mais j'ai pas envie de perdre trop de temps sur l'hygiène dentaire et sur les particularités anatomiques. Ouais, on est d'accord. Johan, on parle d'un sportif de haut niveau. Il y a peut-être aussi ce paramètre-là à tenir compte. On parle d'une pathologie de surcharge et à un moment, il faut rééquilibrer la contrainte. Mais sauf que quand tu as des impératifs de course, de performance, et c'est ça qui est difficile. À un moment, on va être toujours tenté d'être toujours dans la limite, et souvent c'est là où on va effectivement entretenir notre problème. Donc les particularités anatomiques, le fait d'être comme ci ou comme ça c'est notre génétique. Point barre, c'est pas forcément un problème avec, une causalité avec la tendinopathie d'Achille.
Ouais, Johan, tes deux jambes sont de la même taille.
Mais justement, il y a un petit décalage du bassin, donc effectivement, ma jambe droite était un petit peu plus courte. Mais ça ne m'avait jamais fait souffrir pendant les 15 premières années de
ma
carrière. Merci,
tu me rassures, Johan.
Je finis par ça en ayant mal. Hein. Je suis tout à fait d'accord là-dessus.
En fait, si tu as quelqu'un qui dit j'ai les mêmes longueurs de jambes, moi je lui dis c'est anormal. Parce qu'en fait, dans la population en général, on a très souvent une différence de longueur. Allez, 90% de la population va avoir une différence de longueur de plus ou moins un demi-centimètre. C'est ça la normalité.
Okay.
Être symétrique, allez, pour être un peu provocateur, c'est plutôt anormal d'être symétrique.
Ok, eh ben, tu vois, bonne info. Encore une idée reçue détruite par la clinique du coureur. Merci Florent.
Avec plaisir.
Pour résumer, quelles sont les clés que tu peux donner pour quelqu'un qui nous écoute, qui n'en peut plus, qui souffre du tendon, qui a mal dans cette zone? Quels sont les bons conseils?
Ouais, juste quand même pour reprendre par rapport à l'anatomie et tout. En fait, c'est le changement. Johan, il l'a très bien dit. Son anatomie, il l'a toujours eu. Il a grandi comme ça. Il s'est optimisé dans sa performance comme ça. Et ça ne lui pose aucun problème. Pourquoi? Parce qu'on est sur un corps qui s'adapte à la contrainte. Si maintenant tu changes l'anatomie, tu changes la cinématique, c'est-à-dire ta manière de déplacer tes jambes, là tu peux t'exposer à nouveau à de la surcharge, à de la surutilisation et t'exposer à de la blessure. Mais si tu as cette anatomie et que tu bouges de cette manière-là depuis toujours, c'est pas là-dedans que j'irai chercher le problème. Une personne qui, comme Johan, vient me voir. Alors, Johan, encore une fois, c'est insertionnel, donc je ferai très attention à ce phénomène de compression et je ferai très attention aux frictions qu'il va y avoir avec la chaussure. Et je passerai par des exercices pour venir remettre de la contrainte sur le tendon. D'abord, des contraintes verticales de traction sur le tendon, parce que c'est bien son but, on tracte fort dessus. Aujourd'hui, c'est ce qui fait référence sur les tendinopathies d'Achille. C'est effectivement du travail de remise en charge, mais de la charge lourde avec peu de répétitions et des temps de contraction qui sont lentes. C'est aujourd'hui ce qui fait la référence. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant parce qu'on a des taux de récidive qui sont quand même importantes.
Ah ouais.
Attention, là, je viens de parler de l'exercice de remettre en charge, mais je le réexplique. Quand on est en aigu, c'est de se calmer et de reprendre progressivement.
Voilà. Si on a
mais
très
dans
mal,
le cas de Johan...
Déjà. Ouais.
Exactement. Dans le cas de Johan, où ça s'est installé et puis que ça fluctuait, ça montait, ça descendait, des fois ça l'embêtait plus, en fait, il l'a dit, il a mis en place des stratégies d'évitement. Il y a eu très certainement des modifications au niveau cortical aussi, sur sa commande moteur. Et là-dessus, il va installer petit à petit des déficits, aussi des déficits de force éventuellement. Donc, on va avoir besoin de venir retravailler ça.
Okay.
Et le tendon aujourd'hui, ce qui fait référence, c'est effectivement de lui mettre de la contrainte, de la charge pour qu'il recrée une bonne capacité à supporter la contrainte.
Il n'y a pas d'incidence au niveau de l'alimentation pour soigner un tendon? Il ne faut pas éviter, je ne sais pas, les agrumes, genre de choses?
Alors, je ne suis pas expert dans ce domaine-là, donc je vais faire très attention avec ce que je vais dire, mais l'alimentation, c'est effectivement quelque chose qu'on peut aller creuser. Mais encore une fois, avant d'aller chercher des régimes particuliers au niveau de l'alimentation, vraiment, c'est déjà regarder votre hygiène de vie en général. Ça veut dire, est-ce que mon tendon, je le mets dans un environnement favorable pour qu'il se répare bien? Et là, je vais d'abord axer sur, et comment tu dors? Quelle est ta qualité et ta quantité de sommeil? Parce que ça, on le sait, il y a de nombreux papiers là-dessus qui relient justement la blessure à la qualité et à la quantité de sommeil. Donc le sommeil, pour moi, passe bien avant l'alimentation. Mais bien sûr, l'alimentation est importante. Mais aujourd'hui, on n'a quand même pas trop de données pour nous dire qu'il faut telle ou telle alimentation pour soigner une tendinopathie.
Moi, j'avais essayé. On m'avait conseillé d'arrêter les produits laitiers, les produits un petit peu acides, tu vois, les tomates, les choses comme ça. Tout ce qui peut acidifier, aller dans les tendons. Mais bon, moi, j'avais une fissure de 5 mm dans le tendon.
Ouais.
Je peux te dire que c'est parce que je buvais un demi-litre d'eau de plus ou que j'ai arrêté la tomate que ça a changé grand-chose.
Et ben voilà, pas mal de...
Mais l'hydratation, l'hydratation, c'est important.
Ben oui, s'hydrater, ça c'est...
Alors, attention les...
Attention à la surhydratation.
Attendez, j'arrive.
Il va te secouer.
J'arrive. Non, on va pas parler de surhydratation, ça c'est encore un autre débat, mais relier la tendinopathie à un problème d'hydratation, aujourd'hui vous n'aurez aucun papier qui va venir soutenir ça. Donc attention, hein, les marathoniens, bah, on le sait, hein, les marathoniens, ils vont perdre un pourcentage de poids en eau qui est quand même considérable. Donc, quand ils courent et qu'ils performent sur marathon, ils sont clairement déshydratés. Est-ce que c'est vraiment une source de blessures, entre autres sur la tendinopathie? Pas forcément. Pas forcément. Donc, okay, attention avec l'hydratation. Bien sûr qu'il faut boire, mais il ne faut pas aussi se forcer à boire pour que sa tendinopathie aille mieux.
Bon, Johan, tu as une autre bêtise à dire pour te faire reprendre par Florent ou on peut passer au bon plan?
Moi, j'avais fait du PRP, des injections de plasma.
C'est vrai?
Enrichi, oui, en plaquettes. Mais bah, oui, parce que ma problématique, c'est que j'avais donc des... Bah, en fait, mon os venait créer une contrainte sur mon tendon d'Achille. Et donc, mon tendon, à force de passer sur l'os, il se fissurait. Et donc j'avais beau mettre en place ce que je voulais, mon tendon se fissurait à cause de l'os. Et donc du coup, on mettait du PRP pour régénérer un peu les tissus un peu lésés.
Okay.
Mais sur des zones comme la mienne, c'est-à-dire à savoir vraiment, tant qu'il y a la problématique de l'os, bah, ça n'a pas marché. Ouais.
Bon.
À partir du moment où on m'a fait une résection de l'os, enlever cette excroissance osseuse que j'avais au niveau du talon, bah, ça a réglé mon problème.
Ah, t'avais vraiment comme une bosse derrière le pied. Quoi.
Bah, je vous enverrai les photos.
Ouais. Oh, non, merci. Non, c'est bon,
si,
on imagine.
Vous allez voir.
Ok. Bon, Florent, tu restes avec nous et on passe tout de suite au, ouais, bon plan matos.
RMC, le bon plan matos.
Et la marque Sensus à l'honneur cette semaine, marque française éco-responsable. On va vous présenter un t-shirt en ricin et c'est Théo Lapouche qui est avec nous, le fondateur. Salut Théo.
Salut Benoît.
Bienvenue dans RMC Running. Théo, ancien athlète de haut niveau, équipe de France de cross-country, et il est à ma gauche. Et pendant que vous discutiez tendon d'Achille, moi je le voyais se toucher le tendon.
Il se touchait aussi.
Ah, ça, allez, te parlait là Théo, là on est dans un thème qui te touche, hein, j'ai l'impression.
Ouais, clairement. Alors j'en profite, pour ajouter au débat, il y a quelque chose qui a très bien marché pour moi, en, ouais, l'occurrence pour le tendon d'Achille. C'est avec mon ancien kiné, qui est aussi un ami, qui s'appelle Pierre Julien. On a mis un protocole d'échauffement, en fait. Donc avant la course, 15-20 minutes d'échauffement en excentrique. Alors là, Florent, je ne vais pas aller trop loin dans les termes techniques, sinon tu vas me reprendre aussi. En fait, c'était de l'échauffement et de la mise en charge du tendon. Et j'ai pu courir sans douleur les premières minutes, alors que j'avais les mêmes symptômes que Johan au démarrage.
Ah, c'était la même chose, les mêmes douleurs. Tu t'es reconnu dans le témoignage de Johan, quoi.
Exactement. Bah, le matin, j'arrive pas à marcher. Et quand je pars courir tôt le matin, en ce moment, en l'occurrence, je peux pas courir normalement les 3 premières minutes, ça c'est sûr.
Et question bête, mais ça vous a touché seulement d'un côté?
Les deux, moi, en l'occurrence.
Ah, les deux. Parce que ça arrive, Florent, qu'on soit touché que d'un côté?
Alors oui, en fait, tu peux souffrir des deux côtés. C'est quand même rare qu'on déclenche les douleurs bilatérales en même temps. Ça serait même, pour moi, ça m'évoquerait peut-être d'autres diagnostics. Mm-hmm. Mais effectivement, c'est souvent unilatéral. Mais dans l'historique du patient, souvent, il va nous dire « Ah, mais j'ai eu aussi mal sur l'autre côté, mais il y a quelques années en arrière. » Donc ça va d'un côté ou de l'autre. Mais c'est très rare que ça soit en même temps des deux côtés.
Et ce protocole d'échauffement, c'est une bonne idée pour maintenir une activité et un peu de course à pied?
En fait, le protocole d'échauffement, ça m'évoque plusieurs choses. C'est que peut-être qu'il a créé de l'antalgie en faisant ça, parce qu'il y a des données qui nous montrent que si tu fais effectivement un peu de travail sur ton tendon, tu obtiens un effet antalgique de ça. Donc peut-être le fait de le faire avant l'effort lui permettait d'obtenir un peu d'antalgie. Deuxième chose aussi, bah, clairement, quelqu'un qui va faire de la vitesse, je lui conseille clairement de s'échauffer, parce que sinon, il va solliciter de manière trop forte, anormalement, le tendon avec effectivement des vitesses plus importantes. Voilà. Après, ce n'est pas la modalité qui va suffire si notre tendon est vraiment sur de la douleur persistante depuis plusieurs mois.
Ok. Et Théo, tu t'en es débarrassé, ça y est?
Maintenant je fais plus ce protocole là par manque de temps.
Ouais,
mais quand je le faisais, ça marchait très bien, et maintenant j'ai toujours mal. Donc,
et t'as encore des douleurs?
J'ai toujours des douleurs, mais même en touchant là.
Là tu touches, t'as repos, mal. Quand tu touches, t'as mal.
Ça croustille.
Incroyable.
Ouais, ça croustille, ouais, exactement.
Aïe. Ouh, ça fait des frissons dans le dos. Ouais. Alors parlons de Sensus, donc la marque Made in France avec des matières recyclées. Est-ce que tu peux nous faire un point d'étape? Parce que t'es déjà venu dans RMC Running, on était ravis de présenter d'ailleurs ton projet et ta marque. Bah, où tu en es aujourd'hui? Est-ce que ça se développe bien?
Ça se développe très bien et ouais, merci d'ailleurs pour l'invitation aujourd'hui et puis à la dernière fois. Alors de nouveau par rapport à la dernière fois, là en l'occurrence un t-shirt en graines de ricin. En fait, ouais, sur l'année 2023, on a fait passer des questionnaires en ligne, ouais, à nos coureurs ou à potentiellement d'autres coureurs, en leur demandant pour toi, Benoît, c'est quoi ton t-shirt de running rêvé? Qu'est-ce que tu adorerais voir dans ton t-shirt? Quelles sont les caractéristiques?
Donc la légèreté, la durée de vie, tout ça.
Exactement.
L'absorption de la transpiration.
Ouais, exactement.
Ça,
exactement.
L'odeur.
L'odeur, ouais, c'est ça.
Alors tu vois, on a eu plus de 2300 réponses, donc ça commence à faire assez large.
Ouais.
99% des personnes veulent du léger et respirant.
Et ouais.
98 veulent de l'anti-odeur.
Ouais, ok.
Et ça, c'est un gros point. Aujourd'hui, tu as sous les yeux un t-shirt qui est en graine de ricin. Okay. Pourquoi la graine de ricin? Il y a plein d'avantages environnementaux, notamment au niveau de l'allergie, etc. Mais okay. aussi au niveau de l'odeur. Donc en fait, c'est un tissu qui ne va pas retenir les odeurs.
Ok.
Et ça, c'est une grande nouveauté par rapport aux matières recyclées que tu évoquais aussi, qu'on a utilisées et qu'on utilise toujours en parallèle. Là, ce t-shirt-là, en l'occurrence, il ne va pas retenir les odeurs et il va éviter la prolifération des bactéries. Pour être
plus Donc fait. Vous avez dû faire des tests, j'imagine.
J'ai fait des tests en grandeur nature, même, je dirais.
Ah, excellent, alors.
Donc là, celui que tu as sur toi, est-ce qu'il est lavé ou pas? Tu ne sauras pas.
Ah, et c'est ça. En fait, je l'ai porté 45 fois d'affilée et je te le donne.
Et tu ne verras pas la différence. Mais okay, non, d'accord. Bien sûr, on a fait les tests et c'est véridique.
Ok, bah bravo. Et c'est en tout cas une bonne matière, on le touche encore. Ils sont reconnaissables avec le logo, évidemment, mais le liseré bleu, blanc, rouge, toujours. Ce qui est intéressant, donc, c'est, on l'a dit, éco-responsable. Tout est fait en France dans un périmètre assez restreint. Hein.
Exactement. En fait, on essaie d'avoir le plus possible d'étapes en France. Ouais. En l'occurrence, nous, on va avoir la création du tissu, la teinture et la confection, donc la couture qui est faite en France. En l'occurrence, pour ce t-shirt-là, la teinture et le tissu, ils sont faits à Blis, dans le département de l'Ain.
Okay.
Et ensuite, la confection, c'est à Perorade dans les Landes. Nous, on est de Bordeaux. Johan, il va reconnaître aussi Perorade de nom, sans doute.
Et il est en courant.
Potentiellement. Et donc, on fait la confection là-bas, en région, et ça, on adore ça.
Ok. Et au niveau des coloris, t'as pas de problème? Tu peux fournir plusieurs couleurs de t-shirts, comme celui-ci, par exemple?
Au niveau coloris, il y a des contraintes avec du ricin qu'il n'y a pas avec d'autres tissus potentiellement.
Okay.
On est quand même assez libre sur les couleurs choisies. On est plus sur du mat que sur du vif en termes de couleurs. Donc là, par exemple, c'est un jaune mat. C'est un choix aussi de faire du jaune mat, mais c'est aussi parce que la matière est faite telle que.
Okay.
Et non, pas de contraintes particulières.
Combien ça coûte un t-shirt comme celui-là?
Alors celui-ci va être en précommande au prix de 49 euros prochainement.
Okay. Et, donc... la durée de vie d'un produit comme ça?
Alors nous, on la calcule, c'est dur
à... C'est dur à dire.
Ouais, c'est dur. En fait, ça dépend de l'utilisation du coureur. Donc nous, on l'estime en... Même pas, d'ailleurs, on ne peut pas vraiment l'estimer. On l'estime en lavage. Donc combien de lavage il va tenir? Nous, on a des chiffres qui sont immenses parce qu'on vient mettre des points d'arrêt, on appelle ça. Donc on vient bloquer la couture. En fait, on fait des doubles coutures aux endroits où ça craint le plus.
Okay.
Et sur le ruban, sur les fentes, etc.
Ouais.
Donc en fait, on vient doubler la couture et donc on vient renforcer la durabilité du vêtement aussi. Aux endroits où potentiellement la couture peut casser, en l'occurrence, elle ne cassera pas ou dans des dizaines d'années.
Ok. Est-ce que, vu que ce sont des matières recyclées, tu as des précautions à prendre quand tu laves tes t-shirts? Est-ce qu'il faut avoir un programme court, éviter plus de 40 degrés? Est-ce que tu as des indications comme ça pour ceux qui vont aller acheter des t-shirts sans sus?
Non, en fait, ça fait partie des grandes caractéristiques que nous, on cherche à avoir, c'est-à-dire que ça soit le même entretien qu'un t-shirt de running classique.
Okay.
Donc, quand on fait ça à lessive, ben, on met tout en même temps.
Okay.
Et donc là, en l'occurrence, nous, ce qu'on conseille, c'est toujours 30 degrés. Pourquoi? Parce que déjà, en termes d'odeur, bon, ce t-shirt-là, ça va suffire largement.
Ouais.
Et globalement, en termes d'hygiène et d'odeur, ça va suffire largement à 30 degrés.
Okay.
Et ensuite, nous, qui avons une démarche quand même assez poussée en termes d'éco-responsabilité, donc on vient déclarer l'impact carbone de nos vêtements, on vient déclarer nos fournisseurs aussi. Là, j'ai pas cité les fournisseurs. Pour le tissu, ça va être l'entreprise Billon Technique à Blis et ça sera l'entreprise FMS à Perorade. Donc on est assez transparent là-dessus et du coup, nous on conseille 30 degrés aussi parce que c'est mieux pour tout le monde.
Où est-ce que je les retrouve si je veux les acheter?
Uniquement sur internet, uniquement sur notre site internet.
Sensus.fr.
.run.
Sensus.run,
ouais. Et c'est important à noter parce que c'est rare le .run.
Ouais.
Et puis ça tombe bien surtout.
Oui, c'est vrai. Bien vu.
Et non, en fait, il est uniquement disponible sur notre site. Pourquoi? Parce qu'on fait de la précommande.
Ok.
On est dans une démarche...
Comme ça, t'as pas un grand stock, tu fonctionnes comme ça, quoi.
Ouais, exactement. En fait, on est...
Pas trop de production pour...
Ouais, on évite la surproduction, on est dans une démarche d'éco-responsabilité globale. Donc si derrière, moi, je vais te faire des milliers de stocks, les brader à moins 60% en solde, tu vas me regarder un peu de travers et tu vas me dire, non...
Oui, ta démarche éco-responsable, c'est sûr, ta production...
On est d'accord. Donc nous, voilà, on évite de... Enfin, on ne surproduit pas, c'est-à-dire qu'en fait, on fait une précommande, on en a X qui sont précommandés, on fait un stock... légèrement supérieur pour les échanges de taille. Ouais. Donc si Benoît tu prends un S et finalement tu veux un M, mais il faut qu'on puisse te le donner.
Ouais, j'ai pris un peu de poids.
Par exemple, ou un L.
Ouais. Et L, calme-toi quand même. Ouais, oh. Yodu, dis-lui quand même.
Ouais, ouais, bah il y a longtemps que je t'ai pas vu, t'as peut-être depuis que t'es en coupure.
Quel menteur.
Non, il faudrait qu'on prenne les mensurations. Ouais. Et ensuite, donc on fait l'échange potentiellement, et ensuite on vient vendre en stock ce qui nous reste, okay. Et on repart en précommande. Donc on a très peu de stock.
Et ben voilà, la belle initiative de cette marque Sensus. Je précise qu'il y a un t-shirt en ricin donc à remporter cette semaine dans RMC Running avec une inscription sur nos réseaux sociaux, sur Strava, sur Instagram. Et ce test d'écoute, la ville où habite Florent Allier, notre kiné de la clinique du coureur. On l'a dit au début, donc soyez attentifs. Et comme ça, vous pourrez tenter votre chance. Vous indiquez votre taille aussi, ça nous arrangera. Comme ça, on évitera de vous envoyer trois t-shirts, un M, un S et un L. Annonce importante, et je suis heureux que Théo soit là avec moi en studio, Johan, je te le dis. Sensus sera l'équipementier officiel du record du monde RMC. Et bien voilà, tu fourniras donc les coureurs.
Sensus sera recordman du monde.
Et voilà, Sensus va aller chercher un record du monde, c'est pas beau, en France en plus, dans un stade mythique, le stade Charletti. Donc le 8 ou 9 juin, si vous êtes sélectionné, vous courrez en Sensus. C'est ça, hein, Théo?
Pas avec le même t-shirt.
Non.
Il y a un t-shirt par athlète.
Non, si, en fait, il n'y a que 6 t-shirts, on se les file tous à chaque fois.
Voilà.
Bien sûr, chaque coureur aura un t-shirt. Merci en tout cas, Théo, de nous suivre dans cette aventure. Et bah, on va se régaler hein, d'ici là, d'ici au 9 juin.
Ouais, et bah, ravi de collaborer là-dessus. Et puis, vivement le record du monde.
Exactement, c'est vivement ça. Le record. On est en pleine décision comme ça du t-shirt, des logos, etc. Donc, on vous fera évidemment parvenir tout ça. On vous montrera tout ça sur nos réseaux sociaux lorsque ce sera prêt. Week-end du 8-9 juin à Charletti. J'en profite d'ailleurs pour vous donner donc, les indications. Le point d'étape sur le record du monde. L'annonce des sélectionnés, je l'ai dit, sera le 22 avril. Vous saurez si oui ou non vous êtes sélectionné pour cette tentative de record du monde. C'est le moment ou jamais de publier vos performances dans le club RMC Running sur Strava. Et je rappelle le défi, donc nous serons à 48 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024, des Jeux Olympiques. On sera au lendemain de la journée mondiale de la course à pied. Et l'enjeu, c'est de venir au stade Charletti, de courir 350 km en relais. 144 coureurs sont concernés, 10 minutes de temps de course en moyenne et une allure à maintenir de 4,06 au kilomètre, Johan. Assez ambitieux, mais on y sera.
Ça rigole pas, hein.
Et on y arrivera.
C'est ambitieux, mais on y arrivera. Pour être recordman du monde, et il faut faire des chronos.
Un record du monde, ça se mérite.
Ça se mérite.
Tout à fait.
C'est ça.
Donc, soyez attentifs, soyez réactifs et postulez. Tout le monde a sa chance, n'hésitez pas. Et en tout cas, on sera ravis de vous accompagner dans cette aventure du record du monde. Merci Théo, à bientôt. Merci à Florent Allier qui était avec nous cette semaine. Merci Florent. À bientôt pour une nouvelle thématique. Si tu veux venir engueuler Johan Durand, tu viens quand tu veux. Hein.
Ah bah là, j'ai plus de blessures, moi. Là, j'ai plus rien à mettre. Ça j'avais tout sur le tendon.
Ouais.
Périostite, essuie-glace, tu peux m'en parler, je connais pas.
Ah, bah, méfie-toi quand même, ça peut venir vite.
Tout ça, c'est...
Ouais. Ne te moque pas des pathologies, ça peut venir plus vite que prévu.
Non, je risque rien.
Bon, d'accord. Merci en tout cas, Florent, et cette tradition pour
avec
terminer.
Plaisir.
Tu as choisi la musique de fin, la musique que tu écoutes quand tu cours. Tu as choisi Yannick Noah, Aux Arbres Citoyens. Ah, ouais. Ah, ça te parle, ça aussi, Théo. Hein. Ah, ouais, on y est. Il m'a fait l'amour un peu. Bon, écoute, en tout cas, merci Florent d'avoir été avec nous. Merci
avec
à toi, Maître Yodu. Et merci. Toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.
Aux arbres citoyens, quelques baffes à prendre. La veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir? Puisqu'il faut changer les choses, aux arbres citoyens, il est grand temps qu'on propose un monde pour demain.
RMC Football. Samedi à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.